Vous écoutez, on lit pour vous.
S'adapter à la génération Z. Un texte d'Alain Gosselin, paru le 20 février 2024 dans La Presse. Est-ce utopique qu'un employé de la génération Z demeure plus de 3 ans dans une entreprise? Cette question a été posée par un participant lors du rendez-vous EDX La Presse à HEC Montréal sur la génération Z le 6 février 2024. La question paraît cynique, mais plusieurs diront qu'elle reflète assez bien la réalité. Les membres de la génération Z qui ont de 15 à 28 ans, 18 % de la population canadienne en âge de travailler, font d'ailleurs l'objet de beaucoup de discussions ces jours-ci. Mon travail de formateur et d'intervenant me permet d'avoir des échanges avec plusieurs centaines de gestionnaires et de dirigeants par année, et ce, depuis plus de 3 décennies. Chaque génération leur apporte le défi de s'adapter aux valeurs et attentes des nouveaux arrivants sur le marché du travail. Ce qui est particulier avec la génération Z, c'est que je n'ai pas besoin de mettre le sujet à l'ordre du jour. Il s'impose de lui-même, tant il est au centre des préoccupations de ceux que je rencontre. Ce qui irrite les employeurs. Selon une enquête récente effectuée par la firme ResumeBuilder.com auprès de 1344 gestionnaires et dirigeants, 74 % des répondants croient que la génération Z est plus difficile à gérer que les générations précédentes. Mais que leur reproche-t-on? Leur infidélité. Le roulement rapide et fréquent des employés dans la vingtaine est ciblé comme un irritant majeur. De tout temps, on a observé que les jeunes travailleurs explorent le marché du travail en début de carrière. Toutefois, avec la génération Z, cette situation semble aggravée par 3 facteurs sur lesquels les employeurs ne peuvent pas vraiment agir. La pénurie de main-d'œuvre, un accès sans précédent aux emplois disponibles sur les sites spécialisés et la présence d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui ne cessent de présenter leurs conseils sur comment se comporter en entrevue, négocier leur salaire ou développer leur carrière avec succès. Des attentes irréalistes. Cela se manifeste surtout dans leur désir de progresser rapidement au sein de l'organisation, même après une courte expérience dans un poste. Avoir de l'ambition, c'est bien, mais les employeurs savent que vouloir progresser sans s'appuyer sur des acquis solides sur le plan des apprentissages constitue un risque important de faire dérailler sa carrière. Un fort besoin de se protéger. Ayant côtoyé leurs parents obsédés par le travail, les Z semblent soucieux de garder un équilibre en se protégeant face aux demandes qu'ils jugent exagérées ou qui empiètent sur leur vie personnelle. Ils rejettent la culture valorisant un engagement inconditionnel à l'entreprise. Peut-on leur en vouloir? Une anxiété de performance. Selon les employeurs, les Z éprouvent une certaine difficulté à composer avec la pression et la critique. Dans les sondages, ils ressortent comme les moins heureux et les moins satisfaits dans leur travail par comparaison avec les autres générations. Heureusement, ils n'ont aucune hésitation à faire part de leurs états d'âme à leur employeur. Toutefois, cela déstabilise nombre de gestionnaires peu habitués à une telle ouverture émotionnelle. 3 pistes pour engager et fidéliser les Z. Valoriser la différence qu'ils apportent. Comme les jeunes de 20 ans avant eux, les Z ont comme aspiration de changer le monde. Et c'est tant mieux. Ils recherchent un emploi leur permettant de contribuer de façon positive à la société. Ils veulent également s'associer à un employeur qui incarne leurs valeurs, donc qui est responsable socialement, équité, diversité et inclusion, et à une conscience environnementale. Pour susciter leur engagement, il faut donc déterminer et valoriser ce qu'ils apportent en lien avec la mission de l'organisation. Être sensible à leurs attentes. Les sondages récents montrent que les Z ciblent l'insécurité financière comme leur principale source de stress. Comme leurs espoirs d'accès à la propriété semblent sérieusement compromis, ce qu'ils vivent comme une grande injustice intergénérationnelle, les Z deviennent très sensibles aux questions salariales. Également, l'accès à des occasions d'apprentissage et de formation pour faciliter leur progression de carrière est une autre attente à laquelle les employeurs ont intérêt à répondre. Avoir un patron qui adopte une posture de coach. Les Z recherchent un rapport égalitaire. Fini le patron autoritaire et contrôlant. Même s'ils se perçoivent comme autonomes, ils ont besoin d'être soutenus par un leader disponible, à l'écoute et qui les accompagne comme le ferait un mentor. Les employeurs ont besoin d'assurer un contexte de sécurité psychologique où les Z pourront se faire entendre et ne pas se sentir rejetés par une critique qui se veut pourtant constructive. Osons leur donner une chance. Les Z ont le potentiel de transformer les milieux de travail. Ils peuvent avoir une force de frappe similaire à celle des baby boomers qui ont porté la révolution tranquille dans les années 1970. Comme eux, ils seront amenés à occuper des postes de gestion assez tôt en carrière, mais, comme ils le soutiennent, pas à n'importe quel prix. Donnons-leur une chance, même si cela vient bousculer les certitudes et les façons de faire. D'autres, avant eux, l'ont fait avec succès. C'était « S'adapter à la génération Z », un texte d'Alain Gosselin, paru le 20 février 2024 dans La Presse.
D'anciens virus ont joué un rôle dans le développement avancé de nos cerveaux. Un texte d'Issam Ahmed de l'agence France-Presse paru le 15 février 2024 dans La Presse. D'anciens virus ayant infecté des vertébrés il y a des centaines de millions d'années ont joué un rôle crucial dans l'évolution de nos cerveaux avancés et de nos grands corps, selon une nouvelle étude. Ces travaux, publiés jeudi dans la revue Cell, examine les origines de la myéline, une membrane grasse isolante qui se forme autour des nerfs et permet aux impulsions électriques d'être diffusées plus rapidement. Selon les auteurs, une séquence génétique acquise à partir de rétrovirus, des virus qui en envahissent l'ADN de leur hôte, est cruciale pour la production de myéline. Et ce code se retrouve aujourd'hui chez les mammifères modernes, les amphibiens et les poissons. Ce que je trouve le plus remarquable, c'est que toute cette diversité de vertébrés modernes connus et la taille qu'ils ont atteinte, éléphants, girafes, anacondas, n'aurait pas eu lieu sans l'infection de ces rétrovirus, a déclaré à l'AFP le neuroscientifique Robin Franklin, co-auteur de l'étude. Les chercheurs ont fouillé dans des bases de données de génome pour tenter de découvrir les facteurs génétiques associés à la production de myéline. Tani Ghosh, biologiste et généticien travaillant avec M. Franklin, était particulièrement intéressé par les mystérieuses régions non codantes du génome qui n'ont aucune fonction apparente et étaient à un moment donné considérées comme inutiles, mais qui sont désormais reconnues comme ayant une importance dans l'évolution. Ces recherches ont abouti à une séquence dérivée d'un rétrovirus qui se trouve depuis longtemps dans nos gènes et que les chercheurs ont baptisé rétromyéline. Pour vérifier leur découverte, ils ont mené des expériences consistant à supprimer cette séquence chez les rats et ont observé que ceux-ci ne produisaient alors effectivement plus une protéine nécessaire à la formation de myéline. Réaction plus rapide, corps plus grand. Les scientifiques ont ensuite cherché des séquences similaires dans le génome d'autres espèces et ont trouvé un code semblable chez les vertébrés à mâchoire, mammifères, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens, mais pas chez les vertébrés sans mâchoire ou chez les invertébrés. Ils en ont conclu que la séquence est apparue dans l'arbre de la vie à peu près en même temps que les mâchoires, c'est-à-dire il y a environ 360 millions d'années. L'étude a été qualifiée d'éclairage fascinant sur l'histoire de nos ancêtres à mâchoire par Brad Zucchero de l'Université Stanford qui n'a pas participé aux travaux. Il y a toujours eu une pression de sélection pour faire en sorte que les fibres nerveuses conduisent les impulsions électriques plus rapidement, a souligné Robin Franklin. En faisant ça plus vite, alors vous pouvez agir plus vite, a-t-il expliqué, ce qui est utile pour les prédateurs chassant une proie ou une proie tentant de fuir. La myéline permet une conduction rapide de ces signaux sans accroître le diamètre des cellules nerveuses en leur permettant d'être rapprochées les unes des autres. Elle fournit également un soutien structurel, ce qui signifie que les nerfs peuvent grandir davantage, permettant le développement de membres plus grands. En l'absence de myéline, les invertébrés ont trouvé d'autres manières de transmettre rapidement les signaux électriques. Les calamars géants, par exemple, sont équipés de cellules nerveuses plus grandes. Virus, pas seulement méchant. Enfin, l'équipe de chercheurs a voulu comprendre si l'infection virale s'était produite une fois chez une espèce unique ancestrale ou plusieurs fois. Pour répondre à cette question, ils ont analysé les séquences rétromyéline de 22 espèces de vertébrés à mâchoire. Ces séquences étaient davantage semblables au sein d'une espèce qu'entre différentes espèces. Cela suggère que de multiples vagues d'infections sont survenues, ayant participé à la diversité d'espèces de vertébrés connues aujourd'hui, selon les chercheurs. On a tendance à penser aux virus comme à des pathogènes, des agents causant des maladies, a relevé Robin Franklin. Mais la réalité est plus compliquée, selon lui. À différents moments de l'histoire, les rétrovirus sont entrés dans le génome et se sont intégrés aux cellules reproductives d'espèces, permettant qu'ils soient transmis aux générations suivantes. Un des exemples les plus connus est le placenta, caractéristique chez la plupart des mammifères, acquis à partir d'un pathogène intégré au génome il y a fort longtemps. Pour Tanné Gauche, cette découverte sur la myéline pourrait n'être qu'un premier pas dans un domaine émergent. Il y a encore beaucoup de choses à comprendre à propos de la façon dont ces séquences influencent différents processus de l'évolution, a-t-il dit. C'était « D'anciens virus ont joué un rôle dans le développement avancé de nos cerveaux ». Un texte d'Issam Ahmed de l'agence France Presse paru le 15 février 2024 dans la presse.
Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Un texte de Patrick Lagacé paru le 18 février 2024 dans la presse. En 2009, au mois d'août, c'était la première rentrée scolaire de Malia Lelièvre et de Marie-Josée Lompré. Marie-Josée vivait son baptême comme enseignante orthopédagogue à l'hôpital Sainte-Justine pour le service scolaire en milieu hospitalier de la Commission scolaire de Montréal, désormais le CSSDM. Maya avait 5 ans, et c'est dans son lit d'hôpital à Sainte-Justine qu'elle a fait sa rentrée en maternelle grâce aux leçons de Marie-Josée. Marie-Josée se souvient. Maya a vécu sa première journée d'école avec moi à l'hôpital. Elle était vraiment très emballée de commencer la maternelle. Nous avons fait les 2 premières journées ensemble. Ça tombait un jeudi et un vendredi. Le lundi suivant, à mon arrivée dans sa chambre, Maya était fâchée et elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir. Elle était fâchée que je ne sois pas venu samedi et dimanche. Un immense calendrier a donc été confectionné pour que Maya sache quand tombaient ses jours de classe et lui éviter la déception de ne pas voir arriver Marie-Josée dans sa chambre. Elle aimait tellement l'école, se souvient Marie-Josée. J'étais émerveillée de la voir si heureuse de me voir. Malgré ses traitements, Maya adorait l'école. Maya était hospitalisée à Sainte-Justine pour soigner un cancer du sang, une leucémie myéloïde aiguë. C'est avec Marie-Josée que Maya a appris le nom et les sons des lettres de l'alphabet, ainsi que les chiffres. Au milieu de traitements de chimiothérapie, dans sa chambre d'hôpital. Mais la petite adorait apprendre. Marie-Josée se souvient encore des mots de Maya quand elle arrivait dans sa chambre. « Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ?» Ça fera donc 15 ans cette année que Marie-Josée et Maya ont vécu ensemble leur première rentrée scolaire. Elles n'ont jamais perdu le contact. Marie-Josée n'a enseigné que quelques mois à Maya, qui n'était qu'une enfant quand sa première prof lui a appris les rudiments de la lecture et des maths. Mais le lien spécial qui s'est créé entre la prof et l'élève ne s'est jamais effiloché. Chaque année, pour ses rendez-vous de suivi annuel, Maya et sa mère Julie passaient voir Marie-Josée à Sainte-Justine. « Il y a 14-15 ans, quand j'ai eu mon premier téléphone, dit Maya, j'ai commencé à lui écrire directement. » Je suis toujours heureuse quand je revois Marie-Josée. Je ne l'ai jamais oubliée. Quand je dis à mes amis que je suis encore amie avec ma prof de maternelle, elles sont toujours étonnées et je réponds « C'est une longue histoire », dit Maya Lelièvre. Marie-Josée, sur ce lien unique, Maya a été ma toute première élève, un petit rayon de soleil dans ma vie de prof. Elle brillera à tout jamais dans mon cœur. Grâce à elle, ma flamme d'enseignante à l'hôpital ne s'éteindra jamais. Je suis Marie-Josée dans les couloirs de l'hôpital de Montréal pour enfants, direction la chambre d'un enfant hospitalisé. Elle pousse un petit chariot, marqué des mots « l'école à l'hôpital », dans lequel on retrouve tout ce dont une prof a besoin, crayons, cahiers, manuels scolaires, livres d'histoire. Marie-Josée lit une histoire de tigre en français, qui n'est pas la langue maternelle du garçon. L'enfant lit « le féline ». Félin, hein? Tu sais c'est quoi, un félin? La prof explique à l'élève que les chats sont dans la famille des félins, comme les lions, les tigres. L'enfant continue la lecture. Il mesure en moyenne 3 mètres de long. En moyenne. Sais-tu c'est quoi 3 mètres? L'enfant abdique. Non, il ne le sait pas. Marie-Josée sort alors un ruban à mesurer, lui en donne le bout avant de commencer à le dérouler en s'éloignant du lit. Tu vois, c'est ça, 3 mètres. C'est une grosse bête. L'enfant sourit. Il comprend. Très longue. Long. Il est ensuite question de proie, de rayure, de zèbres, de carnivores, de buffles. C'est ce que font chaque jour, avec souplesse et créativité, les profs du service scolaire en milieu hospitalier du Centre de service scolaire de Montréal, à l'hôpital Sainte-Justine, à l'hôpital de Montréal pour enfants, à l'Institut Albert-Prévost et au Centre de réadaptation Marie-Enfant, enseigner aux petits malades malgré la maladie. Toujours en s'adaptant à eux, pour faire grandir l'élève dans le patient. Je rencontre Maya et Marie-Josée dans le bureau des profs de l'hôpital de Montréal pour enfants, dans un couloir où il y a aussi les locaux du docteur Clown, de la musicothérapie et de la zoothérapie. Sur la table, des photos de la prof et de son ancien élève au fil des années, au gré des rencontres annuelles à Sainte-Justine. Maya porte son habit d'infirmière stagiaire, car à 20 ans, elle étudie les sciences infirmières à McGill. Et elle fait un stage cet hiver à l'Hôpital de Montréal pour enfants. C'est donc dire que Maya Lelièvre et sa première prof Marie-Josée Lompré sont désormais, en quelque sorte, collègues. Le 30 janvier dernier, dit Marie-Josée, nous nous étions donné rendez-vous pour dîner ensemble. Elle m'a montré fièrement son équipement de travail ainsi que son uniforme. Et moi, je l'ai présenté fièrement aux collègues que j'ai croisés. Je demande à Maya quel est son état de santé à 20 ans. Réponse : ça va faire 15 ans que je suis en rémission. Je suis en vie parce que mon frère de 3 ans était un donneur de moelle compatible. J'ai pu refaire mon système immunitaire grâce à lui. Maya relève sa manche, me montre un tatouage sur son bras gauche, 26.11.2009. C'est la date de sa greffe de moelle osseuse, quelques mois après sa rentrée scolaire avec Marie-Josée, le 26 novembre 2009, le jour où la rémission a pu être envisagée. Je demande à Maya ce qu'elle veut faire une fois qu'elle sera infirmière. Et la réponse fuse immédiatement. Le plan est déjà tout tracé dans sa tête. Il n'y a aucun doute. Mon but, mon rêve, c'est d'être infirmière à Sainte-Justine, en oncologie. C'était « Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ?» Un texte de Patrick Lagacé, paru le 18 février 2024, dans la presse.
Les bébés signent avant de parler. Un texte de la rédaction paru le 17 janvier 2024 dans le magazine Nota. Des ateliers au BM Cité, Minoterie, Pakis et Servette proposent d'introduire des mots en langue des signes dans la communication avec les enfants de 6 à 12 ans. On change de monde, si vous voulez bien. On quitte celui où le mot « signer » veut dire bêtement « faire une signature » et on entre dans un autre où il signifie aussi « s'exprimer en langue des signes ». Pour ce faire, on se glisse dans un coin de bibliothèque abrité comme une bulle, on se pose sur des coussins placés en cercle par terre et on tourne le regard vers une femme qui « signe » justement, en bougeant ses mains et en scandant une comptine. « Je suis un bébé qui aime communiquer avant de parler. Je veux pouvoir signer pour te dire ce que j'aime, pour te dire je t'aime et pour que tu me comprennes. » Nous sommes dans l'un des ateliers organisés avec l'association Signons ensemble, décliné jusqu'en juin dans plusieurs bibliothèques pour explorer l'univers étonnant de la communication signée avec les bébés. Ce n'est pas une langue des signes à part entière, c'est plutôt une petite collection de gestes qui désignent des élans ou des besoins. Maman, papa, manger, dormir, encore. L'association Signons ensemble propose ces signes aux familles et professionnels et professionnelles de la petite enfance avec un double objectif. Il s'agit d'esquisser un langage commun entre parents et enfants avant même que les bébés sachent contrôler les muscles faciaux nécessaires pour parler, ce qui se passe entre 18 mois et 2 ans. Il s'agit aussi d'acquérir quelques bases pour pouvoir communiquer avec des enfants qui n'entendent pas. Répétez, 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 répétez. Dans l'atelier auquel on assiste, un matin de novembre, à la bibliothèque des Eaux Vives, les adultes reproduisent les signes avec application. Les bébés? Pas tout à fait. Il s'agit, à ce stade, d'une petite dégustation pour donner envie plutôt que d'un tutoriel pour tout apprendre sur place. Nous suggérons aux parents de choisir un ou deux signes parmi les plus courants et de les répéter, 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 répéter. explique Billy Hélène Dourte, qui anime cet atelier. Que disent les parents? Qu'est-ce qui les amène ici? Je voudrais que ma fille soit capable de communiquer avec des personnes malentendantes et qu'elle connaisse, tout simplement, une langue de plus, répond Akshita Madan. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes malentendantes et j'avais du mal à communiquer. Tout le monde devrait avoir une petite base de langue des signes. Pour ma fille, c'est aussi une occasion de rencontrer d'autres enfants et une stimulation pour son développement intellectuel, lui fait écho Amira Hogrel. Aux sources des Baby Signs. D'où vient l'idée? Les associations promotrices de cette approche évoquent deux sources. La première date des années 1980, lorsqu'un interprète américain en langue des signes, Joseph Garcia, croit remarquer que les enfants de parents sourds et sourdes commencent à communiquer plus tôt, en imitant les gestes, que les enfants des familles entendantes. Cette précocité s'expliquerait par le fait que le contrôle musculaire des bras et des mains se développe chez les bébés quelques mois avant la maîtrise des muscles du visage qui serviront à parler. En parallèle aux explorations de Garcia, un duo de chercheuses en psychologie de l'Université de Californie à Davis, Linda Acredolo et Susan Goodwin, s'intéresse aux gestes que les bébés inventent spontanément pour communiquer et à la manière dont ce penchant naturel peut se développer en un langage appris et partagé. Cet apprentissage risque-t-il de compliquer la vie des bébés, interférant avec le développement de la parole? Apparemment pas. Globalement, les études scientifiques menées sur ces « baby signs » ne montrent pas d'effet sur l'acquisition du langage parlé. Si un inconvénient potentiel existe, ce serait plutôt celui d'accroître les injonctions pour les parents, les faisant sentir incompétents et incompétentes si leur bébé ne signe pas avant de parler. Dans l'immédiat, si on évite de se mettre cette pression, les signes pour bébé s'ouvrent comme un terrain ludique et communicationnel à expérimenter. C'était « Les bébés signent avant de parler », un texte de la rédaction paru le 17 janvier 2024 dans le magazine Nota.